autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs. Pour cette dernière semaine de l'année 2022, nous vous avons déniché quelques pépites. À commencer par un prix Nobel, carrément. Le prix Nobel de médecine 2022 attribué à un visionnaire. Le paléogénéticien Svante Paabo, décrypteur du génome de Néandertal, que nous avions eu la chance de recevoir ici même en 2015, à l'occasion de la parution en français de son essai « Néandertal à la recherche des génomes perdus ». Ou l'extraordinaire aventure scientifique et humaine de ce pionnier de la recherche à partir de l'ADN ancien qui a révolutionné toutes nos connaissances sur les origines de notre lignée humaine et redessiné tout notre arbre généalogique bien plus buissonnant qu'on ne l'imaginait. De la découverte du métissage de Néandertal avec Sapiens, en passant par la description d'une lignée humaine inédite, les Denisoviens, à partir d'une simple phalange, Svante Paabo a ouvert un nouveau champ de recherche sur les humanités du passé et de nouvelles pistes pour mieux comprendre les hommes modernes que nous sommes. Une seule espèce, Sapiens, Sapiens sur toute la Terre. Nous vous proposons de réécouter l'entretien que nous avait accordé celui qui n'était pas encore Nobel, mais déjà le plus célèbre des paléogénéticiens, Svante Paabo, le 8 octobre 2015, autour de la question « Comment relire nos origines à la lumière de l'ADN ancien ?» Bienvenue pour remonter le temps. Bonjour, Svante Paabo.
Bonjour.
Je vais essayer de ne pas écorcher votre nom. Svante
Paabo.
Paabo, ce serait mieux comme ça. Merci d'être en direct avec nous. C'est un honneur, franchement, de vous recevoir. Merci à votre traductrice, FDR. Vous êtes l'un des plus éminents scientifiques contemporains, généticiens, évolutionnistes. Vous avez quitté votre Suède natale pour diriger le département de génétique de l'Institut Max Planck, d'anthropologie évolutionniste de Leipzig, en Allemagne. Pionnier de la paléogénétique, c'est vous qui avez réalisé le séquençage du génome de Néandertal. Une révolution scientifique, une aventure humaine aussi, que vous nous faites partager dans ce livre, Néandertal, à la recherche des génomes perdus, aux éditions Les Liens qui libèrent. Est-ce qu'on peut dire, en écho au titre de votre livre, que vous êtes un aventurier des génomes et des mondes perdus?
Perhaps in certainly my life.
Peut-être, oui, ou en tout cas, parfois, à moi-même, ma vie me semble être une grande aventure. Et c'est ce que j'ai essayé de faire passer dans ce livre. C'est vrai que quelqu'un m'a même comparé à l'Indiana Jones du génome, et j'ai toujours cette même envie.
En quête de nos origines. Jean-Claude Amezen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes médecin, chercheur, professeur d'immunologie, directeur, entre autres, du Centre d'études du vivant. Et c'est vous qui avez préfacé ce livre de Svante Paabo. Pour vous aussi, on peut dire que c'est un aventurier de la recherche, un scientifique en quête, au fond, de ce qu'il reste en nous, des mondes disparus.
Oui, pour moi, c'est un grand aventurier, c'est un pionnier. C'est-à-dire que ce qui est très beau dans ce livre, c'est que c'est à la fois une aventure scientifique qui fait comprendre ce qu'est la pratique de la science, y compris dans la vie quotidienne, et en même temps, c'est une aventure humaine. Et c'est non seulement une aventure scientifique et une aventure humaine, mais on croise, et il en parlera peut-être, sa passion aussi pour la culture, sa passion pour l'Égypte ancienne.
Les momies, ça a commencé comme ça.
Voilà, et donc il y a vraiment une quête, je veux dire, à différents niveaux de ce que le passé peut nous apporter pour nous aider à comprendre ce que nous sommes.
Pourquoi partir à la recherche des génomes perdus autour de cette question? Première piste de réflexion sonore sur nos origines métissées avec le mix forcément génétique de Guillaume Ploquin.
Il a disparu il y a environ 30 000 ans. En 2010, des chercheurs ont réussi pour la première fois à percer le mystère de son patrimoine génétique. À la tête de l'équipe internationale de chercheurs, le Suédois Svante Paabo.
Est-il indiscret de vous demander qui c'était ?
Si on s'intéresse au génome de Néandertal, ce n'est pas tant pour Néandertal lui-même, mais plutôt pour mieux connaître notre propre histoire, celle de l'homme moderne.
Par rapport à mes études des années 80, les connaissances que nous avons aujourd'hui sur l'homme de Néandertal ont été décuplées, peut-être même multipliées par 100.
Bref rappel, les Néandertaliens vivent en Europe, ils sont tout seuls pendant 300 000 ans, et à peu près vers 45-43 000 ans, les premiers sapiens arrivent.
A-t-il ou non fricoté avec sapiens? Et oui, puisque nous avons quelques gènes.
À l'intérieur de cette grotte, située dans le défilé de la vallée d'Atapuerca, l'équipe de recherche a mis au jour des vestiges bouleversant notre perception de l'arrivée de l'homme en Europe.
Pourquoi la génétique permet-elle de retracer l'histoire de l'espèce humaine?
Il a fallu inventer sans cesse de nouvelles méthodes et de nouvelles technologies. C'était passionnant, mais aussi assez tendu, parce que nos attentes étaient très élevées.
Ce qui est marrant, c'est de se dire qu'on vient tous d'Afrique, il y a plus ou moins longtemps.
Est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger sur le fait que il y a trop d'espèces qui ont été définies?
On n'oublie pas que Néandertal venait lui aussi d'Afrique.
Un des aspects les plus fascinants, c'est cette arborisation de plus en plus riche de nos ancêtres et de nos cousins préhumains et humains. Et c'est des évidences de plus en plus importantes de métissage entre ces différentes branches.
Je me fiche de savoir qui a couché avec qui il y a 30 ou 40 000 ans. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça a une incidence aujourd'hui.
Quelle incidence pour nous aujourd'hui? C'est aussi ça qui vous a poussé, Svante Paabo, dans cette recherche et dans ce décryptage du génome de Néandertal.
Yes, I think that when different human groups meet,
oui, lorsque plusieurs groupes humains se rencontrent, il y aura forcément toujours des interactions et généralement y compris sexuelles. Cela m'apparaissait comme une évidence. Mais bien sûr, en tant que généticien, ce qui m'intéresse dans les ancêtres des humains, ce sont précisément les conséquences sur les humains d'aujourd'hui. Est-ce qu'il reste encore, est-ce qu'il existe encore en nous aujourd'hui des fragments de l'ADN des Néandertaliens? Et si c'est le cas, que vous ayez vos racines en Europe ou en Afrique, eh bien, vous allez porter entre 1 à 2% du patrimoine génétique des Néandertaliens.
Ça, c'est ce que vous avez montré en déchiffrant l'ADN de Néandertal. Il a fallu 13 ans d'efforts et de recherches. Une première publication en 2010 dans la revue scientifique Science, première séquence complète de Néandertaliens. Ensuite, en 2014, confirmation avec l'ADN complet d'une femme de Néandertal. Vous avez réussi non seulement à séquencer le génome de Néandertal, ce qu'on pensait impossible, mais aussi à montrer que nous en avons tous, plus ou moins, une trace en nous.
Well, not everybody.
Pas tout le monde. Pas tout le monde, non.
If your roots are in Europe or in
si vos racines se trouvent en Europe ou en Asie, à ce moment-là, vous portez 1 à 2% du génome néandertalien. Et d'autres gens dans d'autres parties du monde vont porter d'autres fragments, en quantité différente. En Afrique, en revanche, on ne trouve pas de contribution du patrimoine néandertalien, sauf des flux en retour d'humains qui sont ensuite retournés sur le continent africain.
C'est-à-dire qu'il y a eu aussi, ce qu'on ne sait pas, plusieurs sorties d'Afrique et qu'au fond, ces Néandertaliens font partie quoi, de la première sortie d'Afrique, des premiers préhumains qui sont sortis d'Afrique?
No, I think there has been more than two exits.
Oui, je pense
Africa,
qu'il y a
actually
eu plus de deux sorties d'Afrique, oui, en effet. La toute première forme d'humains à sortir d'Afrique ont quitté l'Afrique il y a environ 2 millions d'années, ont colonisé l'Europe et l'Afrique, et l'Asie, pardon, également. Et puis, les ancêtres des Néandertaliens sont apparus il y a 500 000 ans et ont évolué en Eurasie, et les Néandertaliens ont trouvé d'autres formes archaïques de préhumains en Asie. Et puis, les humains modernes sont à leur tour sortis d'Afrique et se sont répandus dans le monde. Et il est fort probable qu'ils se soient mélangés, métissés avec d'autres formes primitives après leur sortie d'Afrique. Et après, c'est cette espèce, ou du moins ce sont ces gens-là qui se sont multipliés jusqu'à devenir des millions, puis des milliards sur la planète. Mais nos ancêtres remontent à ces premiers.
Nous sommes aujourd'hui, tous des homo sapiens sur Terre ou que l'on vit sur la planète, mais l'humanité autrefois, elle était plus buissonnante que ça. Il y avait énormément d'espèces humaines, plusieurs espèces humaines sur Terre.
Yes, I would always sort of hesitate to say what is a species.
Oui, bon, maintenant j'hésite toujours sur la définition, qu'est-ce qu'on appelle l'espèce, mais il y a toujours eu des formes différentes d'humains et au cours des 40 000 dernières années, on a connu une époque qui n'avait pas de précédent, car c'est notre groupe d'humains modernes qui avons dominé. Mais avant, il y avait toujours plusieurs espèces archaïques qui cohabitaient. Et le décryptage du génome nous montre qu'on s'est mélangé à ces espèces anciennes, et c'est un peu une consolation. Ils continuent de vivre un petit peu en nous, dans les humains d'aujourd'hui.
Une consolation, Jean-Claude Amezian, et puis aussi une espèce d'ouverture philosophique considérable, cette humanité buissonnante, aujourd'hui une seule espèce, hein, on peut dire comme ça, sur Terre, mais avec des traces de, en chacun différentes des espèces passées.
Oui, encore une fois, comme dit Svante Pebo, c'est pas des espèces, c'est des branches, des rameaux de l'humanité. Moi, je crois que ce que nous révèle l'exploration du passé depuis Darwin, hein, depuis 150 ans, c'est à la fois ce qui nous constitue et tout ce que nous avons perdu. Et au fond, une des interrogations, quand vous parlez d'interrogations philosophiques, c'est parmi toutes ces branches de l'humanité qui ont coexisté jusqu'à quelques dizaines de milliers d'années avec nous, combien de façons y avait-il de se sentir humain, de voir le monde, de voir les autres? Et au fond, nous sommes la seule façon qu'il reste d'avoir été humain sur Terre. Donc je crois que c'est intéressant de se dire qu'il y avait sans doute plusieurs façons de penser, d'imaginer, de se voir, et plusieurs formes d'humanité. La consolation, ce que dit Svante Pebo, c'est que tout n'a pas disparu. Et il y a quelque chose d'étrange quand vous l'évoquiez tout à l'heure. Les Néandertaliens sont nos cousins, mais ils sont aussi nos ancêtres. Et donc cette idée de rameaux qui s'éloignent puis qui se bouturent, qui se réunissent, font que ce sont aussi nos ancêtres. Nous sommes aussi, même si la part est mineure, les descendants de ces cousins. Et donc il y a quelque chose de très beau dans ce surgissement, ces éloignements, et puis ces métissages. Et je pense, ce qui est intéressant, parce que là c'est la trace dans l'ADN de ces métissages, mais ce dont on ne voit pas la trace de manière aussi évidente, c'est sans doute toutes les influences culturelles que ces rencontres ont entraînées. Et peut-être que dans l'évolution culturelle de nos ancêtres, il y a eu quelque chose qui vient de ces rencontres multiples dans le passé.
Autour de la question, comment relire nos origines à la lumière de l'ADN ancien, je propose une relecture musicale de L'homme de Néandertal, signée Mousse et Hakim sur RFI. Je crois savoir que vous êtes curieux de l'entendre. Santé, Pabo, c'est pour vous.
Les charbons à faire des traits au mur pour compter les saisons, remercier la nature. On croyait tous pareils, au-dessus du feu des reines, des ours et du ciel, des rivières et des chênes. Pas de temple à bâtir, personne à convertir. Néandertal, si tu voyais vieux locataire, dans quel état la planète Terre? Néandertal, cousin lointain, vieux solitaire, l'heure est fatale car tous nos mots sont planétaires.
Néandertal, version Mousse et Hakim sur RFI, ça vous plaît, Svante Pebo?
Yes,
Oui, c'est cool et j'avais jamais entendu.
On va vous donner les références autour de la question. Pourquoi et comment partir à la recherche des génomes perdus? Vous avez, Svante Paabo, déchiffré donc celui de l'homme et de la femme, surtout de la femme, de Néandertal, finalement, le génome complet, dans la grotte de Denisova, où il n'y avait pas que des Néandertals, mais aussi une autre branche de l'humanité, encore plus étrange, nous disait Jean-Claude Amezen, aujourd'hui disparue, ce qui soulève de nouvelles questions, comme celles que vous pose un autre chercheur en génétique, Bertrand Jourdan.
Moi, ma question, la question que je me pose, c'est à propos des Denisoviens. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les Denisoviens, sur leur origine, et comment on peut arriver à tirer autant de conclusions à partir d'un minuscule morceau d'os trouvé dans le sous-sol d'une caverne en Sibérie?
Svante Paabo, qu'est-ce qu'on sait sur les Denisoviens?
Tout d'abord, ça a été une des plus grandes surprises que j'ai connues dans ma carrière, cette découverte. Il s'agissait d'un minuscule bout d'os, la dernière phalange du petit doigt d'un auriculaire, et on était convaincu que ce serait soit un néandertalien, soit un homme moderne. Et quand on a séquencé son ADN, on s'est aperçu que ce n'était ni l'un ni l'autre, mais qu'il s'agissait d'un cousin lointain, éloigné des néandertaliens. Qui avait dû se séparer 400 000 ans auparavant. Ce serait donc comme un cousin, là encore, ou un parent très éloigné. Et il se trouve qu'on retrouve aussi leur patrimoine génétique en Asie, notamment aussi dans les populations du Pacifique. Donc, si vous avez vos racines en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Australie, eh bien, 5% de votre ADN provient des Denisoviens.
Et tout ça à partir d'un quoi ? D'un fragment de phalange de l'auriculaire, c'est ça ? Comment on travaille là-dessus ?
En fait, si l'on arrive à séquencer en détail un génome, on ne trouve pas qu'un seul génome dans un individu, mais deux. Il y a celui qu'il a hérité de sa mère et celui qu'il a hérité de son père. Par conséquent, vous avez un échantillon de deux génomes sur cette population. Par conséquent, vous pouvez leur faire dire quelque chose sur les variations génétiques au sein de cette population et donc l'histoire génétique de cette population.
Est-ce que vous pensez, Svante Paabo, que vous pourriez tomber comme ça sur d'autres petits fragments d'os et arriver à déchiffrer d'autres génomes ? Enfin, qu'on n'en est qu'au début de cette recherche paléogénétique de nos origines ?
Si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit non, on sait l'essentiel de ce qu'on peut savoir. Mais depuis la découverte des Denisoviens, mon esprit s'est ouvert à la possibilité que l'on puisse trouver d'autres espèces archaïques à l'avenir. La Chine est un territoire passionnant à explorer et on va sûrement, au cours des fouilles, faire d'autres découvertes.
Et d'autres espèces archaïques qui sont toutes aussi sorties d'Afrique. Enfin, c'est toujours aussi le même chemin, hein ?
Et puis des rameaux qui sont sortis d'Afrique plus tôt et qui peuvent avoir survécu assez tard, comme l'Homo fiorensis,
le petit homme,
le hobbit aussi en Australie, voilà.
Jean-Claude Amezen.
Oui, je crois, c'est important de réaliser que cette révolution de ce qu'on appelle la paléogénomique, c'est la première fois dans toute l'histoire des recherches sur nos origines, qu'une branche de l'humanité émerge non pas de fossiles, mais de l'analyse d'ADN. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, hein, et qui n'était pas imaginable avant. Avant, on pensait que c'était les os qu'on trouvait, hein, et maintenant, c'est l'ADN qui sort de ces os, sans rien qui puisse nous dire quelle était la forme. Le squelette de ces personnes. L'autre leçon, je crois, qui est intéressante, c'est que ce que nous raconte Svante Paabo, c'est que les humains n'ont cessé de migrer. Ce sont des nomades, ce sont des migrants. Et nos ancêtres sont partis il y a 2 millions d'années, il y a 800 000 ans, il y a 500 000 ans, il y a 50 000 ans. Et ils n'ont cessé, au fond, de circuler dans le monde.
Et de se mélanger.
Sacrée
découverte, tout ça à partir de l'ADN. Combien de temps ça survit, un brin d'ADN ?
Alors, Svante Paabo va vous répondre. Mais si ma mémoire est bonne, la première fois qu'un ADN ancien de 100 ans a été séquencé, une toute petite partie, c'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, des ADN, en particulier d'un ancêtre de cheval, datant de plus de 560 000 ans, ont été entièrement séquencés. Donc c'est une révolution extraordinaire. Il y a 35 ans ou 40 ans, on pensait qu'il était impossible d'analyser de l'ADN à partir d'un individu qui était mort depuis quelques années.
À noter que depuis 2015, date de la première diffusion de cet entretien croisé entre Jean-Claude Amezen et Svante Paabo, lauréat cette année 2022 du prix Nobel de médecine pour le séquençage de l'ADN de Néandertal, les paléogénéticiens savent désormais faire parler de l'ADN datant d'un million d'années. Et ce n'est pas tout. Cette limite vient juste d'être pulvérisée le 8 décembre dernier, exactement, avec la parution dans la prestigieuse revue Nature d'une étude à partir d'ADN ancien congelé depuis plus de 2 millions d'années sous la glace du Groenland, révélant tout un écosystème inconnu avec notamment d'étranges mastodontes cousins du mammouth. Jusqu'où nous entraînera l'ADN ancien ? On continue de s'interroger avant de retrouver Svante Paabo juste après avoir écouté Philippe Catherine dans ses œuvres « J'aime ton ADN ».
Ton ADN, j'aime. Sans ton ADN, c'est un Éden où c'est toujours la nuit. J'aime ta dégaine, donc ton ADN. Sans ton ADN, c'est un Éden où je suis toujours assis. On dirait tes gestes un peu ta maman, on dirait tes mots un peu ton papa, un peu ton maman, un peu ta papa, si tu vois ce que je vois. On dirait les rois mages vers leur étoile, vers les sa maman, on dirait ses mots, un peu son papa, un peu son maman, un peu sa papa, si tu vois ce que je vois.
Philippe Catherine sur RFI, j'aime ton ADN. Autour de la question, pourquoi et comment partir à la recherche des génomes perdus ? Nouvelle diffusion de l'entretien que nous avait accordé en 2015, le paléogénéticien Svante Paabo, lauréat du prix Nobel de médecine 2022, pour le décryptage de l'ADN de Néandertal et la description, à partir de quelques brins d'ADN, de lignées humaines inédites et disparues, ouvrant du coup un immense champ de recherche. Mais jusqu'où ? Jusqu'où nous entraînera l'ADN ancien ?
Ce qui m'intéresserait, moi, c'est que Svante Paabo, aujourd'hui, on sait qu'on travaille beaucoup sur le génome d'espèces anciennes. On travaille beaucoup, donc il a décodé le génome de Néandertal pour notre propre espèce et autres. Il y a des travaux qui sont menés, qui il y a 30 ans paraissaient inatteignables, de se dire, ben voilà, on va peut-être pouvoir, à partir de ce travail sur le matériel génétique, envisager de recréer des espèces disparues. Qu'est-ce qu'il en pense ?
C'est le paléontologue Francis Duranton qui vous pose la question, Svante Paabo, à partir de l'ADN de Néandertal, pourrait-on recréer l'homme de Néandertal, carrément ?
Well, I guess there are two aspects to that question.
Bon, il y a deux aspects à la question. Mais en tout état de cause, la réponse est non. Premier obstacle technique, peut-on y parvenir ? Là, ma réponse serait qu'il faudrait introduire des dizaines de milliers de changements au niveau du génome et il n'y a aucun moyen de faire ça de manière sûre. Et ensuite, il y a des sections entières matières qui sont répétées qu'on ne peut pas reconstruire à partir des fragments d'ADN qu'on a découverts. Donc ça reste une lacune, une inconnue. Ça, c'est pour les obstacles techniques. Pour le second aspect de la question, peut-être Jean-Claude Ameisen est-il plus apte que moi à y répondre. Mais pour ce qui est du Néandertal, sur le plan éthique, il est inimaginable de créer comme ça artificiellement un être humain pour la simple curiosité scientifique.
Jean-Claude Ameisen, vous qui dirigez aussi le Comité national d'éthique et qui avez préfacé ce livre de Svante Paabo, qu'est-ce que vous répondriez à cette question ?
La même chose que Svante Paabo. Je pense qu'il a une excellente réponse, je crois. La question était recréer une espèce disparue. C'est pas créer une espèce disparue, c'est donner naissance à un être humain. Et donc, on ne fait pas d'expérimentation avec les êtres humains. Donc, je crois qu'il faut comprendre que c'est pas la même chose qu'une espèce d'arbre disparu depuis longtemps. C'est notre humanité. C'est un des rameaux, une des branches de l'humanité.
Voilà une réponse qui, en tout cas, nous fait bien plaisir ici autour de la question « Pourquoi partir à la recherche des génomes perdus ?» Le but de cette recherche n'est évidemment pas de recréer des espèces disparues, mais au fond, c'est de quoi ? De mieux nous comprendre, nous, de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous résistons et pourquoi nous, Homo sapiens, sommes aujourd'hui sur Terre, Svante Paabo.
Yes, at different levels. So one level is what we have discussed.
Oui, il y a plusieurs niveaux. Celui qu'on a abordé déjà, quand est-ce qu'on a partagé des ancêtres avec les Néandertaliens, quand est-ce qu'on s'est métissé avec eux et d'autres groupes d'humains archaïques. Et puis il y a un autre aspect que je trouve presque plus intéressant. En fait, avec les génomes de ses parents anciens, on peut passer en revue les génomes des hommes d'aujourd'hui et repérer les changements génétiques qu'on partage tous aujourd'hui, les humains modernes, qu'on vive en Afrique, en Europe, en Asie, mais ces changements qu'on ne retrouverait pas dans le génome néandertalien. En quelque sorte, découvrir la recette qui fait de nous des humains tout à fait modernes. Et ces changements, d'ailleurs, génétiques entre nos deux génomes sont assez limités, 30 000 à peu près, et on espère découvrir que ces mutations génétiques recèlent le secret de ce qui a poussé l'humain à développer l'art, la technologie, et en a fait l'espèce qui a vraiment colonisé la planète entière et nous a fait nous multiplier pour ne plus être des petits groupes de quelques 100 000 individus, mais des milliards, et jusqu'à même, d'ailleurs, menacer la biosphère.
C'est vrai qu'au fond, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est une réussite incroyable, étonnante d'Homo sapiens, d'avoir finalement, d'être la seule espèce, enfin vous n'aimez pas ce mot-là, mais d'être la seule branche d'humanité qui existe aujourd'hui sur Terre. C'est une forme de... c'est une grande question, ça aussi.
Voilà. One can of course debate if it's a great success.
Bon, on peut se poser la question de savoir si c'est une réussite. Et en tout cas, on a envie de savoir ce qui s'est passé.
Fundamental question.
C'est une question pour moi fondamentale.
Je pense que c'est intéressant. Tous les rameaux de l'humanité, en dehors d'une autre, qui est sans doute le plus récent, ont disparu. Et donc je ne suis pas sûr que le fait d'avoir survécu à des disparitions en tant que telles soit une marque de qualité particulière. L'histoire humaine nous montre que de très grandes cultures ont disparu. Les personnes ont non seulement les cultures, mais les gens ont disparu, les gens ont été massacrés. Et donc je crois qu'il y a deux questions. Il y a qu'est-ce qui fait que nous sommes encore là et que les autres ne sont pas là. Mais ça, c'est, je dirais, c'est l'histoire de nos ancêtres. Et il y a quels sont éventuellement nos particularités sans a priori penser qu'elles étaient supérieures qualitativement sous prétexte que nous avons survécu. Le paradoxe, c'est que pour l'instant, nous sommes très jeunes par rapport à tous les rameaux. Il y a des rameaux d'humanité qui ont duré pendant très longtemps.
Beaucoup plus longtemps que nous. Hein.
Voilà, donc nous avons la chance d'être là. Et je dirais peut-être, nous pouvons nous interroger sur ce que nous sommes par rapport à ces autres rameaux. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous ne savons pas ce que nous avons perdu. Et donc, il se trouve que nous sommes les seuls survivants. Mais je ne suis pas sûr que ça veut dire que, ce qui était souvent le débat, que nous avions des qualités particulières que les Néandertaliens n'avaient pas. Peut-être que eux avaient des qualités particulières. Je vais vous donner un exemple absurde. Mais si des qualités de méditation, par exemple, nous rendent humains, peut-être qu'ils avaient des qualités de méditation extraordinaires, mais qui ne favorisent pas forcément la survie dans un contexte particulier de compétition.
Alors, pour comprendre justement ce que nos ancêtres, hein, les autres rameaux humains avaient, que nous n'avons pas, vous vous intéressez en ce moment dans vos recherches, Svante Pabe, à un certain homo antécesseur, qui est, je crois, le plus ancien hominine d'Europe, découvert dans les grottes d'Atapuerca, au nord de l'Espagne. Je propose d'abord d'écouter un extrait du reportage que j'ai pu faire sur le site même d'Atapuerca, c'était en 2009, avec l'un des archéologues qui a découvert cet homo antécesseur, José María Bermudos.
C'est un hominine différent. Je ne sais pas si c'est une espèce. Je ne vais pas discuter avec les scientifiques si c'est un homo antécesseur ou c'est une autre chose. C'est différent. L'Espagne, ou la péninsule ibérique, Portugal et l'Espagne, c'est un cul-de-sac. Et c'est pour ça que les procès génétiques, finalement, a donné un hominine, que c'est différent de les autres. La face, que c'est différent, les dents qui sont conservées, les caractères primitifs, c'est une combination, bueno, différente. Je ne sais pas si c'est une autre espèce. Nous avons appelé homo antécesseur, mais l'évidence, c'est que c'est un autre hominidé différent. Je pense que l'homo antécesseur naît ici, à l'Europe, dans ce cul-de-sac, que c'est l'Europe, c'est l'Espagne, et mort ici. C'est mon hypothèse dans ce moment.
Alors, qui est cet hominidé sur lequel vous travaillez en ce moment, je crois, Svante Pabe?
Alors, une direction de travail, c'est améliorer nos techniques pour pouvoir remonter plus loin en arrière dans le temps. Et c'est justement à Cima del Hueso, ce site espagnol, qu'on a peut-être la possibilité de faire cela. On trouve des vestiges qui datent d'il y a 400 000 ans. On a pu extraire un tout petit peu d'ADN de l'ADN mitochondrial, donc qui se transmet uniquement par la mère, mais aussi un petit peu d'ADN nucléaire. Donc on est en cours d'études, on est en cours d'analyse, mais c'est vrai que cela pourrait nous éclairer sur les ancêtres des Néandertals et des Denisoviens aussi. On a l'impression de remonter aux racines, aux ancêtres des Néandertaliens. Et puis on espère sur d'autres lieux découvrir, mettre au jour des restes humains encore plus anciens afin de les étudier.
Jusqu'où vous pourrez remonter le temps comme ça? J'ai posé la question tout à l'heure à Jean-Claude Amezen, mais jusqu'où l'ADN que vous pouvez, les traces d'ADN que vous pouvez trouver peuvent vous, enfin nous, renseigner
I have often been wrong in my predictions
about
the future.
Bon, je me suis déjà trompée par le passé dans mes prédictions et je serais ravie qu'on me démente, mais à mon avis, on ne va pas dépasser 1 million d'années. En tout cas, pas sur des restes qui sont à l'extérieur du permafrost. Les plus anciens vestiges sont de 700 000 ans, c'est ceux d'un cheval, mais constamment gelés dans le permafrost. Mais pour. Et sinon, les vestiges les plus anciens sont ces restes de la grotte d'Atapuerca, 400 000 ans. Alors peut-être qu'on va découvrir d'autres restes de 600 000 ans. Mais en tout cas, on ne dépassera pas 1 million d'années, je pense, pour les capacités de décryptage.
Mais ça devrait nous permettre quand même de continuer à redessiner complètement notre arbre généalogique, parce que Néandertal, Denisovien, on remonte plus haut. Vous dites qu'en Asie, peut-être, on peut trouver d'autres fossiles, on peut peut-être en trouver aussi ailleurs. On pourrait redessiner complètement notre arbre généalogique, toujours plus foisonnant.
Mais à chaque fois qu'on découvre un nouveau fossile, on a tendance à s'en aller. Mais en tout cas, à partir de l'extraction de l'ADN avec rigueur, on extrait quand même pas mal d'informations. Donc il faut d'abord caractériser les restes de la grotte d'Atapuerca, caractériser leurs liens génétiques avec les humains modernes, avec les Néandertaliens, et partout où c'est possible, sur d'autres sites archéologiques, on le fera lorsque c'est possible. Mais sur des fossiles très anciens, on ne peut en déduire qu'une morphologie, une anatomie, mais on ne peut plus en extraire l'ADN, il est trop endommagé.
Jean-Claude Lamézienne, vous parlez de cette révolution paléo-génomique complètement insensée qui nous ouvre effectivement quoi, sur une humanité tellement foisonnante
Oui, je crois aussi dans ce que dit Svante Pebo, il y a quelque chose que cette aventure récente a réécrit le passé. Et donc, il y a dans ce qui ne pourra pas être analysé, dans ce qu'il évoquait, dans des fossiles très anciens, il y a, je crois, maintenant cette notion que derrière les fossiles, derrière tout ce qu'on peut reconstituer, il y a quelque chose de mystérieux, puisque l'étude de l'ADN a reconstruit de manière assez différente ce qui émergeait des fossiles. Donc, je crois qu'il y a aussi cette dimension de l'aventure scientifique qui est de réécrire notre histoire. De ce qu'un historien me disait un jour en disant dans ma discipline on ne sait jamais de quoi hier sera fait, et donc je trouve très beau cette réécriture. Et là où cette réécriture pendant un temps n'est pas possible, eh bien ce qu'on a reconstruit devient plus ouvert, plus mystérieux, plus riche de possibilités que ce qu'on pensait quand on étudiait que les fossiles.
C'est-à-dire que plus de questions au fond, ça c'est vraiment le problème de la recherche scientifique, c'est cette recherche en génétique ouvre finalement plein de possibles et plein de questions.
Je crois que les révolutions scientifiques, les grandes aventures scientifiques sont celles qui nous disent que les choses ne sont pas comme on le pensait, sinon c'est pas une grande aventure. Quand il s'agit du passé, et je dirais encore une fois depuis Darwin, c'est la grande révolution de la science, qu'il s'agisse du vivant ou qu'il s'agisse de l'univers, eh bien les grandes avancées scientifiques nous montrent que nous réécrivons l'histoire qui nous a donné naissance. Et il y a quelque chose, je trouve, de très, indépendamment de ce que ça a comme richesse scientifique, quelque chose de très émouvant, de s'apercevoir que l'idée que nous nous faisons de nos origines, de nos histoires, eh bien, est quelque chose qui est en perpétuelle ouverture et en perpétuelle reconstruction.
Émouvant, c'est émouvant pour un généticien, pour un paléogénéticien, que de, je sais pas comment on dit, manipuler des brins d'ADN, Svante Pebo.
Well, I think it is something profound that I tend to not
c'est
think about
cas,
every day
because you work profond, with it every day. Comme j'y travaille tous les to jours, realize, j'essaie de ne pas y penser tous les jours. Mais le fait de réaliser que les Néandertaliens n'ont pas totalement disparu, qu'ils continuent de vivre un petit peu en nous, en tous les gens autour de nous, et que, en effet, les Néandertaliens se sont métissés avec les Denisoviens, et qu'on retrouve du patrimoine généticien parmi d'autres espèces qui remontent à des millions d'années et qui sont encore d'autres rameaux et qu'on partage ces ancêtres. Et on peut dire qu'il n'y a pas de différence entre les espèces suivant la date à laquelle elles sont sorties d'Afrique. Tous les humains modernes sont tous sortis d'Afrique, se sont répandus à travers les autres continents et lors de leur rencontre avec les hominidés archaïques, eh bien, ils se sont métissés, ils ont procréé.
Autour de la question comment la lumière de l'ADN ancien éclairait nos origines, celui de notre genre humain. On écoute Brigitte Fontaine sur RFI.
Je me suis trouvée là, dans ce corps inconnu. Pour Dieu, c'est quel gars-là, je ne l'ai jamais su. Soudain parachuté, dans ce monde étranger. Ange au supermarché, il m'a fallu danser. La Java des terriens, sans en connaître rien.
Je fais un genre humain. Je fais un genre.
oublier les cieux, les antres souterrains, m'adapter aux logis, très abracadabrant, qui me fut imparti de chair, d'os et de sang. Moi, l'eau du paradis, l'ocre des galaxies.
Nous faisons un genre humain sur RFI avec Brigitte Fontaine autour de la question pourquoi partir à la recherche des génomes perdus avec le célèbre paléogénéticien Svante Paabo, notre invité avec le chercheur Jean-Claude Amezen. Nous découvrons à quel point notre genre humain, nous les hommes modernes, une seule espèce hein, aujourd'hui sur Terre, portons encore dans nos gènes les traces de nos ancêtres et de toutes les branches d'humains qui ont autrefois peuplé la Terre. Je vous propose un dernier éclairage en forme de question sur notre héritage néandertalien, question soulevée par le professeur de génétique humaine au Collège de France, Jean-Louis Mandel.
Il a démontré que effectivement, nous sommes tous porteurs, en tout cas dans la population européenne, de 1 à 3% de génome qui nous vient de Néandertal. Et alors, il y a des hypothèses qui proviennent notamment de Saint-Labo, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en pense, qui suggèrent qu'en fait, ces 2-3% de génome ont pu permettre une meilleure adaptation de l'Homo sapiens qui venait d'Afrique et qui n'était pas habitué au climat froid européen, alors que le Néandertal qui vivait depuis longtemps, et que finalement, ces 2 à 3%, ça a pu permettre de finalement fixer des variations de génome adaptatives par rapport à l'environnement européen. Donc ça, c'est une question. Est-ce qu'il y a des données maintenant qui sont vraiment en faveur de cette hypothèse que finalement, on est mieux adapté, ou en tout cas au cours de l'histoire, disons de la préhistoire, etc., où il y avait des conditions quand même d'environnement difficiles, est-ce qu'effectivement, il y a raison de penser que ces variations génétiques qui provenaient de Néandertal ont permis finalement une meilleure adaptation aux conditions environnementales de Homo sapiens?
Votre réponse, Svante Paabo, c'est une question d'adaptation peut-être?
Well, so we're beginning to learn a bit about this.
Oui, on commence tout juste à mieux comprendre tout cela. Depuis un an et demi, on dispose d'un génome de Néandertaliens de très bonne qualité et donc les scientifiques peuvent comparer leurs résultats avec le décryptage des génomes modernes. Et on commence à comprendre que quelques variations génétiques qui viennent des Néandertaliens et des Denisoviens ont une fonction bien spécifique. Il y a des variations qui nous aident au niveau du système immunitaire qui nous aide à comprendre les virus et les bactéries qui vient des Néandertals et qu'on retrouve à certaines, à des fréquences différentes dans les populations d'Asie. Il y a aussi des variations qui ont trait au métabolique et en Asie, on le retrouve au niveau du risque de développer le diabète de type 2, le diabète tardif. Et bien, cette variation génétique, 5% des Asiatiques la portent et elle provient des Néandertaliens. Il s'agissait peut-être d'un mécanisme d'adaptation aux famines récurrentes et au jour, ça nous donne le diabète parce que, en fait, c'était fait pour qu'on stocke les aliments et l'énergie. Et encore plus intéressant, un groupe américain de chercheurs a démontré l'an dernier que l'adaptation pour arriver à vivre en haute altitude, la population du Tibet, par exemple, où il y a très peu d'oxygène dans l'air, eh bien, ce qui leur permet de s'adapter, ça leur vient non pas des Néandertaliens, mais des Denisoviens. Donc, c'est fascinant de comprendre qu'on n'aurait pas connu ces populations assez importantes qui vivent sur les hauts plateaux du Tibet s'ils n'avaient pas bénéficié de ce petit plus, cette variation génétique qu'ils ont hérité des Denisoviens. Et à l'avenir, je pense qu'on trouvera d'autres exemples. Je ne pense pas que ce soit ces contributions qui ont fait que les humains modernes se soient répandus à travers toute l'Asie, mais enfin, ça les a aidés en certaines occasions.
Donc ça les a aidés de se mélanger, de se métisser avec les hommes de Néandertal, puisque Sapiens et Néandertal et Denisovia se sont métissés. Est-ce qu'on sait quand, comment, où, pourquoi ils se sont métissés?
Well, I would think all human groups mix when they meet.
Oui, tous les groupes humains se mélangent quand ils se rencontrent. Je crois que c'est une règle générale. En tout cas, moi, ça ne me surprend pas.
Le métissage, oui, c'est finalement bien plus ancien, bien plus humain qu'on ne le pense, Claude Amezen, qu'on a voulu penser plutôt.
Si vous voulez, le métissage est une notion très, très, très abstraite parce qu'en fait, elle porte sur le niveau de différence. Au fond, quand les humains se rencontrent, les humains se mélangent. Et donc la question, quand on parle de métissage, c'est qu'on a l'impression que la distance était plus grande et donc que la réunion est plus étonnante. Mais si, comme le dit Svante Pebo, quand les groupes humains interagissent, eh bien ils se mélangent et ils font des enfants ensemble, ben, quelles que soient les différences ou la proximité, les groupes humains se sont mélangés au cours de l'histoire et continuent à se mélanger aujourd'hui. Donc je crois que l'idée même de métissage, c'est un peu comme s'il y avait des unions qui sont pas des métissages parce que les gens seraient très proches. Et il y a des unions qui sont des métissages. Quand est-ce qu'on commence à parler de métissage? À partir de quel degré de différence? Donc il y a aussi cette idée, je crois que ce que ça nous dit, nous avons eu l'impression pendant très longtemps qu'entre Néandertal et l'homme moderne, il y avait une différence énorme. Et donc d'un seul coup, quand on apprend qu'ils ont fait des enfants ensemble, on dit qu'ils se sont métissés. Mais ça montre que d'un côté, il y avait peut-être pas tellement... En tout cas, pour ceux qui se sont mélangés, ben, il n'y avait pas de grande différence entre eux. Et donc, je crois que ça nous dit autant, l'emploi de ce mot nous parle autant de nous que de ceux dont on parle.
Svante Pebo.
Yes, I think that it's actually a misconception to think
oui,
that in the
et là
past,
encore, c'est une idée reçue qui est erronée. Dans le passé, les groupes étaient plus homogènes, on pensait ça avant, mais il y a toujours eu beaucoup de variantes. Les tout premiers humains modernes comportaient des variations génétiques multiples et partagées avec les néandertaliens du fait de nos origines communes.
Il y a aussi un point que je voulais demander à Svante Pebo, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on hérite de quelque chose, je veux dire, il y a des avantages et des inconvénients. Et l'exemple qui donnait sur ce petit fragment venant des hommes de Denisova qui a permis aux ancêtres des Tibétains d'habiter les hauts plateaux est un avantage adaptatif. Mais si ma mémoire est bonne, sur des hauts plateaux aussi élevés dans la cordillère des Andes, d'autres humains se sont adaptés sans avoir hérité. Donc il y a différentes façons et différents mécanismes de s'adapter. Et au fond, l'homme, comme les espèces vivantes, fait avec ce qu'il a. Et donc parfois, c'est une voie qui est plus facile et parfois, c'est d'autres voies qui sont utilisées.
Svante Pebo, j'ai envie de terminer là-dessus. Est-ce que vous pensiez, quand vous avez commencé et même quand vous continuez ces recherches en paléogénétique, qu'au fond, vous nous diriez tellement de choses, non seulement sur le passé, mais sur nous, pour nous aujourd'hui?
Yes, I think it's the past does sort of enlighten how we should
oui,
think
le
about
passé
us today,
nous éclaire, nous aide à
and
nous
that
mieux
may
comprendre
be one of the satisfying things with this work.
Aujourd'hui. Et je crois que c'est un des résultats les plus satisfaisants de ce travail.
Merci infiniment en tout cas d'avoir profité de votre passage à Paris pour venir en direct dans notre studio, je vais y arriver, sur RFI, Svante Pebo. Merci FDR pour votre traduction simultanée, chapeau. Merci Jean-Claude Amezen. Je rappelle le titre de votre livre, Svante Pebo, aux éditions L. Les liens qui libèrent, préfacé donc par Jean-Claude Amezen, Néandertal, à la recherche des génomes perdus, une aventure scientifique et humaine qui nous concerne tous, où qu'on soit sur la planète. Merci à vous.
Merci.
Nobel de médecine Svante Pebo. Demain, c'est un autre prix Nobel. Le physicien français Alain Aspect, lauréat du prix Nobel de physique 2022 pour la démonstration de l'intrication quantique, que nous vous proposerons de réécouter, chers amis auditrices et auditeurs. Nous l'avions reçu en avril dernier, avant l'attribution de son Nobel, autour de la question jusqu'où nous entraînera le plan quantique, piste de réponse intriquée et superposée à suivre demain, avec Thibaut Baduel à la réalisation. Merci pour votre curiosité, surtout garder l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du journal.